France Musique. Sous les doigts d'Horowitz.
And all the music.
Une émission d'Emmanuel Franc, assistée de Françoise Monteil et réalisée par Christine Amado.
Bonjour à vous, les amateurs, les curieux, les amoureux d'Horowitz. Aujourd'hui, ce sera notre 8e et dernier épisode. Qui plus que lui nous a électrifiés à ce point ? Nous a fait ressentir une viscérale excitation, nous demandant quelle surprise il va nous réserver à chaque interprétation. Quel pianiste nous a fait ressentir à ce point le danger ? Ses doigts allaient si vite qu'ils auraient pu s'envoler ou se briser. Puis, en une seconde, dans un contrôle absolu, il nous apaisait, nous attendrissait, nous faisait pleurer d'émotion par des notes effleurées. Mais Vladimir Horowitz, c'était aussi celui qui jouait parfois trop vite et trop fort, piétinant toute délicatesse. C'était encore ce vieux petit garçon, ce clown triste capable à la fin d'un concert de s'exclamer « bien, très bien », puis de se retourner vers l'orchestre et de lui tirer la langue. Je vous avais prévenu, l'histoire d'Horowitz est pleine de pages blanches. Mais en avançant dans mon récit, j'ai, je crois, peu à peu, compris le mystère de sa vie. Je sais maintenant ce qu'il a aimé plus que tout. Voilà le sujet de notre dernier rendez-vous. L'objet secret de son amour. La semaine dernière, nous avons quitté Volodia à la fin du concert qui a signé son grand retour en mai 65 après 12 ans d'absence. À la suite de cet immense succès, il imagine redonner le même programme dans quelques grandes villes, puis recule. Finalement, non, il n'en a pas le courage. En fait, l'excitation du concert passé, il subit un terrible contre-coup. Il déprime et dit « Je me demande si je rejouerai jamais. Peut-être que le prochain récital retomberait dans l'ordinaire. » Mais la déprime s'accentue. Certains matins, je me réveille avec un sentiment de vide. Et il m'apparaît alors que donner un récital n'a pas de sens. Pour prouver que je peux encore jouer ? Est-ce que je ne l'ai pas prouvé en mai dernier ? Et puis je n'ai pas besoin de cette excitation, de cette tension à nouveau. J'ai passé une grande partie de ma vie à ne faire que ça. Qu'est-ce que ça va m'apporter ? De l'argent ? Parfois, il évoque la possibilité de jouer dans des petites villes au centre de l'Amérique pour gagner quelques milliers de dollars sans avoir à affronter la fébrilité d'un récital à New York. Mais Vladimir, n'étant pas à une contradiction près, fin 66, demande à Julius Blum, rappelez-vous, le directeur de Carnegie Hall et désormais l'agent par amitié de Vladimir, de réserver une date. Rebelote ! La queue autour de Carnegie Hall est aussi longue qu'en 65. Cette fois, ce n'est pas Vanda, mais lui-même qui va voir. On peut l'imaginer la nuit, calé au fond de sa limousine, se délecter en silence de sa renommée. Il demande au chauffeur de s'arrêter au troquet du coin et c'est à son tour d'offrir sa tournée de café. Il est pétri d'émotions. Un fan qui le reconnaît lui hurle. « Ne soyez pas nerveux, monsieur Horowitz, on est tous avec vous !» Et elle répond « Que Dieu vous entende !» « Cette fois, il commence par Scarlatti, moins risqué que Bach. Puis, les 32 variations de Beethoven, 11e sonate de Mozart, que c'est le 331, 10e de Scriabine et Chopin. Ensuite, il continue de jouer, mais dans des universités pour des concerts réservés aux étudiants. Il est écartelé entre l'envie de rester très célèbre et la peur des grandes salles. Il y a une solution à ce problème. En 67, il accepte pour la première fois de jouer pour la télévision afin de toucher le public le plus large possible. Lors de la captation, Vladimir se passionne pour la technique, mais avec Vanda, il s'en mêle d'un peu trop près. Il refuse les gros plans sur son visage ou sur ses mains, persuadé qu'ils vont tromper les téléspectateurs, qu'ils penseront que ce n'est pas lui qui joue. Le ton entre l'équipe technique et Vanda, qui surveille comme un cerbère les écrans, tourne allègre. Mais le succès est retentissant et le chèque sonnant et trébuchant. Seul ennui, Vladimir ne peut plus aller promener son chien Pipo sans qu'on lui demande un autographe. Mais après tout, il ne demandait que cela.
Vous savez, quand les gens m'arrêtent dans la rue, et on m'arrête tout le temps, je leur dis toujours qu'il y a erreur. Je ressemble à Horowitz, mais je ne suis pas Horowitz. Oh, pardon, je suis désolé.
Finalement et sagement, Vladimir recommence à donner quelques rares concerts, mais uniquement dans des grandes villes comme Boston et Chicago. Les billets se vendent en 2 heures. À chaque fois, Columbia envoie ses équipes. Vanda et Julius Blum s'occupent des demandes de concerts qui arrivent de partout. Blum voudrait que Vladimir fasse un concerto. Il l'envisage avec l'orchestre de Chicago. Vladimir demande à avoir Karajan et non le directeur musical Scholti. Scandale. Flatté, Karajan prévient Deutsche Grammophon de l'aubaine. Il n'y a pourtant aucune date d'arrêté. L'idée de ce concert extraordinaire ne reste donc pas secrète bien longtemps. Julius Blum doit tirer un trait sur le projet. Vanda m'a téléphoné folle de rage en disant qu'il n'y avait plus de concert. La vérité, c'est qu'en 69, Horowitz a 66 ans. Il est là, si là. Il n'est jamais vraiment satisfait au point que jouer en public est redevenu une corvée. Il se retire cette fois encore, et pour 3 ans. Et il ressasse. Maintenant, j'en ai soupé. Faut-il continuer? Mais pourquoi faire? À nouveau, les soirées 94e rue sont tristes. Vanda invite quelques amis pour jouer aux cartes. Elle n'autorise Vladimir à ne jouer que ce qu'elle appelle justement de la musique de cartes. Vanda, de temps en temps, il est gentil, nous joue de la musique de fond, mais quand il commence avec Beethoven, Haydn ou Chopin, on lui demande d'arrêter. En revanche, quand il joue des airs d'opérette, nous aimons bien. Quand ça ne lui plaît pas, Vanda ordonne « Assez, va te coucher.
» Ah, that's what you call a finesse. Hey, suspense. It's a good girl. He plays a good game. Hey, suspense. Plays a fine game.
C'est un Volodia tout endolori dans un coin du salon qu'il nous faut imaginer. Il ne veut plus jouer, mais alors, qui est-il loin du piano? Terrible, pacte faustien. Il a échangé son bonheur personnel contre son talent et son succès depuis longtemps, et maintenant, que reste-t-il de sa vie s'il n'y a plus personne à hypnotiser avec ses dons? Seule diversion, les disques. Columbia pioche dans les enregistrements de concerts et sort en 71 un récital Chopin. En 72, un concert Scriabine. En 73, les quatre sonates de Beethoven préférées d'Horowitz. Les impromptus de Schubert et la sonate Claire de Lune. En 74, un autre récital de Chopin. Mais ces disques se vendent de moins. Été 73, Vladimir est totalement abattu. J'ai eu une sorte de découragement cet été. C'est comme une dépression nerveuse, mais physique, tout à fait physique. Ma tête est normale. C'est seulement mon système nerveux qui ne fonctionne pas bien. Je marche, je fais tout, mais je suis tout le temps fatiguée. Quoi que je fasse, je me sens fatiguée. Et maintenant, je déteste la musique.
When the music's over.
Alors il est temps de recourir à un traitement dont je n'ai pas parlé, mais qui explique peut-être bien des comportements aberrants de Vladimir Horowitz. Dès les années 60, il avait subi des électrochocs. En 73, il refait une cure qui semble l'avoir revitalisé. Vladimir, je ressurgis après 4 ans d'isolement, parce que je ne veux pas être une légende. Je ne suis pas un fantôme, mais un être humain vraiment en vie. Je sais vraiment jouer. Je veux livrer la marchandise. Et les lettres de jeunes m'ont convaincu que je devais le faire. Maintenant, je ne ferai plus de retraite. Comme toujours, quand Vladimir va mieux, il travaille les scènes d'Enfant de Schumann vers La Flamme de Scriabine et la sonate numéro 2 de Clémentier, opus 26. Et voilà, la musique le sauve encore une fois, comme toujours. Moins il est dépressif, plus s'éloigne la phobie des concerts. Il prend alors contact avec l'impresario Harold Shaw pour évoquer une éventuelle tournée en 74-75. Celui-ci lui propose de revenir dans la ville de Cleveland plutôt que New York. Le concert suivant a lieu à Washington. En moins de 2, Horowitz redevient le musicien qui fait l'événement. Si les spectateurs ne le voient pas maintenant, ils le rateront peut-être pour toujours. Six mois après, il est au Metropolitan Opera. Les billets ne sont pas vendus à l'avance et coûtent jusqu'à 200 dollars. Pourquoi cela? Mais parce que Volodia souhaite passer en douce la nuit pour voir la queue de ses admirateurs devant le guichet. Ce rituel est devenu un élixir.
Ladies and gentlemen, Vladimir Horowitz.
Il fait un tabac avec la cinquième sonate de Scriabine. Sonia, la fille de Vladimir et de Vanda, restée handicapée depuis un accident de moto quand elle était jeune fille, est venue de Genève, où elle vit, pour assister à ce concert. En fait, beaucoup ignorent son existence tant elle est absente de la vie de ses parents. Elle a 40 ans maintenant, ne travaille pas, vit seule et ne va pas bien. Deux mois après, un télégramme arrive chez les Horowitz. Sonia s'est suicidée. Elle a toujours laissé son père totalement indifférent. A été négligée par une mère dévouée à l'artiste. Et, dit Vanda, aurait pu être musicienne, peintre ou photographe, mais n'a jamais trouvé sa voie. Si Vladimir a éprouvé des sentiments pour sa fille, il les a bien cachés. À l'enterrement de Sonia dans le caveau Toscanini, Volodia a choisi la musique, mais elle n'est pas présent à la cérémonie. Il annonce qu'il remet à plus tard les concerts prévus, ajoutant « de quelques semaines seulement ». Un peu plus tard, alors qu'il se rend à une fête avec un ami et que Vanda s'y refuse, il dit « ne vous en faites pas, on va mieux s'amuser, elle est déprimée et névrosée, c'est très difficile, vous savez, sa fille est morte ».
Thank you.
Disons qu'à partir de 1975, tout est neuf autour de Vladimir Horowitz. Nouvel impresario, show. Nouveau contrat juteux pour les concerts et puis nouvelle équipe pour les disques. Comme rien ne va plus avec Columbia, qui a perdu beaucoup d'argent lors des dernières années d'absence de Volodia, et parce que ces nouvelles exigences sont coûteuses, ils se séparent. Et Vladimir revient, comme si de rien n'était, chez RCA. Il semble assez désinvolte, ces années-là.
Je travaille 2 heures par jour.
Vous ne faites pas plus?
Plus maintenant.
Pas besoin.
Non, j'en ai besoin, mais je suis trop paresseux. J'ai des choses plus importantes à faire. Et je ne peux pas jouer plus de 2 heures.
2 heures par jour.
Oui, pas plus.
Ce n'est pas nécessaire.
Non, ce serait nécessaire, mais je ne veux pas me fatiguer.
Il blague même à propos de l'indépendance de ses doigts.
Je dois dire que parfois ils sont tellement amis qu'ils sont inséparables. Ce n'est pas toujours comme ça, mais là je souffre. Ils sont si amis. Et que faire s'ils tentent de se promener chacun de son côté ?
Vladimir, décidément ragaillardi, étudie une nouvelle œuvre, la 3e sonate de Schumann, dite « Concerto sans orchestre ». Et pour faire sa pub, il ose même dire qu'elle est injustement délaissée, ce qui est faux. Traduisons, le seul à être à la hauteur de cette grande page de la littérature romantique, c'est moi. Tout lui semble plus facile maintenant, il prend l'avion. Lui qui en avait la phobie, voyage même dans la cabine de pilotage. Il y a d'abord les tournées Canada, Côte Ouest, Miami, Houston, Ann Arbor, Carnegie Hall. En avril et en mai, il annonce une tournée en Californie. À Seattle, il découvre que des Japonais ont fait le voyage pour le voir. Il se dit qu'il pourrait peut-être finalement accepter l'invitation du Japon. Il réalise aussi qu'on vient le voir, quel que soit son programme. Il se sent donc plus libre. Autrefois, Je n'oubliais jamais la présence du public dans la salle et je jouais pour faire plaisir aux gens en choisissant la musique en fonction de leur goût. Aujourd'hui, je joue la musique que je veux et j'essaye de donner le meilleur de moi-même. Que le public aime la musique ou non, je m'en moque. Lors de ses tournées, il ne joue plus qu'une fois par semaine ou par quinzaine. Il devient tout à fait immodeste. Même quand je ne joue pas tellement bien, voyez-vous, moi je le sais. Mais le public ne le sait pas, et quelquefois même, la critique ne s'en rend pas compte. Mai 76, je souhaite m'arrêter sur cette date, celle d'un concert d'exception, un moment de pure magie auquel Vladimir a participé, le concert du siècle. Il s'agit d'une soirée de gala organisée par Isaac Stern pour le 85e anniversaire de la légendaire salle Carnegie Hall. En fait, un concert pour lever des fonds afin de la sauver car elle est menacée de destruction. Tous ceux qui ont connu leurs premières heures de gloire y participent. Bernstein, Fischer-Dieskau, Menuhin, Rostropovitch, Arroyo et les musiciens du New York Philharmonic. Le principe de ce concert est que tous les musiciens se prêtent à un programme de musique de chambre. Mais comme l'opération met en lumière Isaac Stern, Vladimir refuse de jouer avec lui. Stern se rend à la 94e rue. L'ambiance est glaciale. Vladimir entend imposer son programme. Bloom, présent, raconte. Durant toute la soirée, Vladimir joua sa partie de la sonate pour violoncelle et piano de Rachmaninoff, ignorant platement les Stern et la question à l'ordre du jour. L'idée de programmer le premier mouvement du trio de Tchaïkovski avec Stern et Rostropovitch. Bloom tourne les pages et chuchote à l'oreille de Vladimir. « Écoutez, Volodia, il faut que vous fassiez le Tchaïkovski avec Stern, autrement la vie va devenir impossible. » Horowitz entre ses dents. « Il ne travaille pas assez. Je ne peux pas jouer avec un homme comme ça. » Le lendemain, Vladimir y consent pourtant. Lui qui n'avait pas fait de musique de chambre depuis les années 30. La répétition se passe en fait très bien. Alors que Rostropovitch range son instrument, Vladimir, malin comme pas deux, toujours au piano, commence à jouer les premières notes de la sonate de Rachmaninoff. Stern raconte. Rostropovitch a tout de suite plongé sous le piano pour reprendre son violoncelle et se mettre à jouer. Vladimir a crié à sa femme de trouver la partition et ils se sont mis à déchiffrer le mouvement lent ensemble. Martina Arroyo, la soprane, appelle le lendemain. Un problème de santé, elle ne pourra pas venir. Alors Stern a l'idée de demander à Vladimir et Rostropovitch de jouer leur sonate de Rachmaninoff. Le soir du concert arrive. Au moment du trio, la tension est palpable. Silence. Puis, notre cabotin plaque un accord en lançant un petit coup de menton vers Rostropovitch et Stern du genre « Allez les enfants, on est prêts !» Vladimir doit aussi accompagner Fischer Dieskau. En répétition, le pianiste dira au chanteur « Nous sommes tout à fait en sympathie. Chaque fois que vous reprenez votre souffle, je le ressens. » Et au salut, il ajoute « Je vous ai suivi d'un bout à l'autre. »
Wie tief verwundet mein Herz, sie würden mit mir weinen, zu heilen meinen Schmerz. Und wüssten's die Nachtigallen, wie ich so traurig und krank, sie ließen fröhlich erschallen, erquickenden Gesang. Und wüssten's wie mein goldenen Sternen, sie kämen aus ihrer Höhe und sprechen Trost herein. Sie wollen, könnten's nicht wissen, nur eine kennt meinen Schmerz. Sie hat ja sich vermissen,
et arrive la sonate de Rachmaninov. Julius Blum résume l'émotion qui nous saisit. Horowitz a trouvé en Rostropovitch un frère russe. Leur héritage russe, leur respect mutuel, créèrent une relation qui se reflétait bien dans ce qui finalement devait apparaître comme l'interprétation la plus parfaite techniquement et la plus émouvante de la soirée.
Thank you.
Dans Rolling Stone, on lit « Il y avait là deux fils de leur mère patrie russe, poursuivant une conversation si tendre, si pleine d'amour et si russe, que seul un Nabokov eût pu traduire la saveur douce amère des souvenirs qui durent baigner leur esprit en cet instant. » Rostropovitch et Horowitz quittèrent la scène enlacés et en larmes. Commencent à partir de 76 les grandes années de Vladimir Horowitz. On ne vient plus écouter le pianiste, on vient voir l'idole Horowitz. Les tournées sont organisées par Shaw, assisté de Peter Gelb, engagé comme directeur de communication. Peter Gelb, oui, il s'agit bien de l'actuel directeur du Metropolitan Opera. L'organisation est aussi inédite que drastique et n'a qu'un but, dorloter le fragile pianiste. Vladimir a toujours dit que s'il avait cessé de donner des concerts, c'était à cause des contraintes des voyages. Eh bien, tous ces désagréments doivent disparaître. My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for. Désormais, il ne veut plus aller à l'hôtel. Il loue un appartement. Tout un staff l'accompagne. Wanda, parfois sa sœur Wally, l'impresario Harold Shaw, un nouveau valet de chambre, Ralph Hens, l'accordeur de piano, la cuisinière et le chauffeur. Se souvient. Partir en tournée était pour Wanda et Volodia comme préparer une campagne présidentielle. Il précise que Wanda fait les valises mieux que personne. Parfois, des mélomanes prêtent leur maison. Vladimir accepte à condition que le salon puisse recevoir un grand Steinway et que la cuisine soit équipée d'ustensiles modernes. Il apporte son propre appareil à purifier l'eau. Dans le camion qui transporte le piano, Wanda ajoute ses casseroles et des mètres de velours pour draper les fenêtres et obtenir un noir complet, indispensable au sommeil de Volodia. Il faut imaginer la complexité de la tâche de Shaw, qui en plus de son travail normal d'organisateur, doit faire parvenir une liste à l'impresario local. Quelle est l'adresse du meilleur volailler local? Y a-t-il une poissonnerie avec de la sole fraîche dans votre ville, à distance raisonnable de la résidence de Monsieur et Madame Horowitz? À Miami, il a refusé de jouer, alors on a fait venir par avion de la sole fraîche. Et maintenant l'aspect financier de ces concerts, absolument primordial. Vladimir se justifie. Pendant des années, je suis resté chez moi sans gagner un cent. Ça a été trop long et maintenant j'ai le droit de gagner beaucoup d'argent. Je regagne ce que j'ai perdu. Maintenant je joue là où les gens peuvent se permettre de me payer. Il lui arrive même d'ajouter « l'acoustique est bonne là où le chèque est gros ». Thank you. En fait, Vladimir ne joue plus contre un cachet, aussi faramineux soit-il, non. Il prend maintenant 80% de chaque recette, tout en exigeant un prix des places exorbitant. Il a ainsi ruiné des impresarios locaux en annulant un concert alors que tout était prêt. De son côté, il ne signe le contrat qu'une fois sur place et juste avant le concert. Quand on lui reproche d'être le pianiste le mieux rémunéré du monde, il rétorque Goguenard.
Mais je n'ai pas fait ça toute ma vie. C'est après 50 ans de carrière que j'ai obtenu ça.
On m'a dit que c'est 3 fois plus que les autres concertistes classiques. Et vous souriez quand je dis ça. Parce que vous savez que c'est la vérité. Et vous en êtes fier.
Ce n'est pas que j'en sois fier, c'est ainsi.
Vanda, elle, se fait craindre partout. Quelques directeurs de salle se souviennent de sa rage folle quand elle apprend que tous les billets ne sont pas vendus, alors qu'Horowitz a exigé des tarifs très élevés. Elle ne se prive pas de laisser fuser sa colère. À votre place, je ne serai pas fière.
You calling me a liar again?
Peter Gelb ne jette pas la pierre à Vanda, mais plutôt à Vladimir. Elle servait de repoussoir pour faire à sa place le sale boulot, ingrat. Par exemple, négocier ses contrats. Autre nouveauté, la promotion. Vladimir est devenu si vaniteux qu'il pense que le public viendra de lui-même sans la moindre publicité. Eh bien, il a raison. Gelb, dont c'est le travail normalement, est admiratif de son savoir-faire. C'était un artiste toujours attentif à ne pas se trouver surexposé et choisissait les propositions qui lui étaient faites avec le plus grand soin. Il donnait moins de concerts que quiconque, mais obtenait des cachets doubles ou triples de ceux des autres. Quand Rubinstein recevait 15 000 dollars par concert, Horowitz pouvait aller jusqu'à 60 000 dollars. Il voulait être payé autant qu'il pensait devoir l'être. L'image de lui-même qu'il a finalement réussi à mettre en avant est celle d'un pianiste dont on ne sait jamais si les mains vont lâcher ou non. Dernière nouveauté, les concerts ont lieu le dimanche à 16h. Pourquoi ?
Je vais vous donner deux raisons. Une raison qui me concerne et l'autre qui concerne le public. Les deux raisons. Du point de vue du public, je dois dire qu'en soirée, la vie est tendue maintenant. Quand vous jouez dans les grandes villes, un homme d'affaires qui est resté assis au bureau depuis 6 heures le matin, qui rentre tard à la maison, régulièrement vers 8 heures, il est lessivé. Sa femme aussi est fatiguée, avec l'entretien de la maison, les courses. Alors courir pour aller au concert, ils sont trop fatigués, après une journée de travail, pour aller au concert et pouvoir se concentrer. Et on s'endort facilement au concert. Deuxièmement, le point de vue de l'artiste. Je pense que ma mémoire marche mieux l'après-midi. Le soir, je suis déjà fatigué. Je rentre à la maison à 11h30 minuit et je ne peux pas dormir. Je suis à cran. Je perds alors une nuit de sommeil. Et le jour d'après, je suis comme ça. Si je joue l'après-midi, ensuite je me repose. Et après, j'ai même oublié que j'ai joué. C'est l'après-midi que je me sens le mieux.
Mais une fois en scène, attention !
Quand je suis sur scène, je suis une personne, et en dehors de la scène, je suis une autre personne. Quand je suis sur scène, je me sens comme un roi. Je suis un roi sur la scène.
Sur la scène?
Oui. Oui, personne ne peut me perturber, parce que j'ai quelque chose à faire et je dois donner le meilleur de moi-même. Parfois je fais mieux, parfois je fais moins bien, comme n'importe quel être humain.
Disque, là aussi Vladimir se fait plus rare. 76-77, sonate quasi-concerto de Clementi. 78, reprise de la sonate de Liszt et deux pièces de Fauré. Côté vie privée, il semble que Vanda ait lâché du lest. Gelb invite le couple le 31 décembre 1977 au Studio 54, la plus fameuse boîte de nuit de New York. Peter Gelb, un gay, est venu se prosterner pour embrasser les pieds de Horowitz en signe d'adoration. Vanda lui a versé sur la tête ce qui restait d'une bouteille de Dom Pérignon pour « le rafraîchir », a-t-elle ajouté. Pourtant, elle ferme maintenant les yeux quand Vladimir passe ses soirées dans les bars gays avec les jeunes gens du bureau de Shaw. Il s'y montre particulièrement désopilant, paraît-il. Volodia évoque même le sujet avec la presse. C'est très différent de ce que c'était grâce à la libération sexuelle, voyez-vous. Autrefois, tout se faisait en cachette. Aujourd'hui, tout se passe au grand jour, ce qui est très sain. C'est sur la table et ça m'amuse de voir jusqu'où ça va. Le monde sera sauvé par les homosexuels, affirme-t-il aussi lors d'un dîner, juste avant que Vanda ne lui ordonne sèchement de se taire. Ce n'est pas parce qu'elle a appris à tolérer et à accepter les excentricités de son mari, y compris son attirance sexuelle pour les hommes, que leurs chamailleries ont cessé.
Est-ce que vous lui parlez franchement quand il joue bien ou pas si bien ?
Malheureusement, oui.
Elle le fait.
Oui.
Elle n'a pas toujours raison, mais elle cause toujours.
Vous le faites.
Oui, mais la plupart du temps, j'ai raison.
Il y a entre eux d'évidence une grande écoute, au moins de la part de Vanda. D'ailleurs, elle préfère être auditrice que spectatrice pour apprécier le jeu de son Horowitz à elle. Ainsi, chez eux, elle se poste sur le palier à l'étage en tendant l'oreille. Et c'est ainsi qu'elle se sent meilleure juge. Pourquoi ?
Pour ne pas être sous son emprise magique.
'76, '77. Vladimir tourne dans 17 villes, une seule fois à New York, et pour cause. Il se réserve pour son jubilé d'or en 78. Pour créer l'événement, alors que cela fait 25 ans qu'il n'a pas joué avec un orchestre, il commence à réfléchir, mais sans engagement, à un nouveau troisième concerto de Rachmaninov. Finalement, il est décidé que le concerto sera donné avec l'Orchestre Philharmonique de New York, dirigé par Eugène Ormandy pour les deux premières représentations à Carnegie Hall et Zubin Mehta à Lavery Fisher Hall. très angoissé. Vladimir veut faire un test à l'automne 77, mais en grand secret. Même l'orchestre n'est pas au courant. À la répétition, les musiciens ont sur leur pupitre le requiem de Verdi et on le change au dernier moment quand Vladimir arrive en scène. L'orchestre s'aperçoit qu'il connaît aussi bien sa partie piano que la leur. Il chante avec eux. Ormandy cède en tout point à Vladimir. Vladimir, j'ai joué librement, dans le grand style, et le philharmonique n'a vraiment pas l'habitude de ce style. Je suis un romantique du 19e siècle. Je suis le dernier. Je prends des risques terribles. Comme mon jeu est très clair, si j'accroche, si je fais une faute, on l'entend tout de suite, mais la partition n'est pas une bible et je n'ai jamais peur d'oser. La musique est derrière des petits points blancs et noirs imprimés. Vous devez la chercher, c'est ça que j'entends par le grand style. Je joue pour ainsi dire de l'autre côté de la partition, en me retournant. Le concert est un triomphe, mais le disque est critiqué. Milstein, le vieil ami de toujours, lui-même, n'est pas tendre. Ce concert n'était pas bon. Le feu sacré n'y était plus tout à fait. Le phrasé est mauvais. Et puis, il y a un caractère ostentatoire dans ses gestes. Il essaie toujours de faire quelque chose à la musique, au lieu de la laisser venir, tout simplement. Le concerto avec Zubin Mehta se passe mieux qu'avec Ormandy. Or, il est enregistré et télévisé. C'est une archive extraordinaire. Vladimir entre en scène sans rechigner, direct. Le public, totalement silencieux jusque-là, explose en applaudissements à son arrivée. On dirait que Zubin Mehta se tient à carreau, toujours trois pas en arrière. Vladimir sourit quand le public se lève. Il est maintenant assis et commence ses ajustements de tabouret. Zubin Mehta attend au pupitre. Voilà, c'est bon. Volodya a dessiné sa silhouette à la pointe sèche. Ses grandes jambes pliées à 90 degrés, le dos creusé, il lève la tête au ciel. On le dirait découpé en ombres chinoises. Enfin, il fait un petit signe de tête et c'est parti. Plus rien ne semble bouger de son corps. En plan large, il semble le jouer du bout des doigts. En arrivant au forte, il ne scie pas d'un millimètre. La musique glisse littéralement sous ses longs doigts. Et puis, gros plan. Et là, magie, il joue pleinement du plat des doigts. N'en restons pas au premier mouvement avec ce magicien, puisque nous l'avons déjà entendu. Passons au début du dernier mouvement, où l'entente avec Zubin Mehta se perçoit mieux. Thank you. son jubilé est aussi l'occasion de se montrer à la télévision. Il participe à la fameuse émission 60 minutes. Il fait 45 millions de téléspectateurs. Et puis, clou de la fête, l'invitation par Jimmy Carter à la Maison Blanche le 26 février 1978. Vladimir a accepté à condition que ce soit un concert comme Casals en avait donné du temps des Kennedy. Le président devait inviter 300 ou 400 personnes qui aiment la musique sans être des spécialistes, mais pas de politiciens, pas de ces gens qui ne font que regarder leur montre pour voir quand ça va finir parce qu'ils s'ennuient à périr.
It's a great honor for us now to have someone who can truly make the piano sing. I would like to introduce to you.
C'est un grand honneur pour nous d'avoir quelqu'un qui sait vraiment faire chanter le piano. Je voudrais vous présenter quelqu'un que j'ai décrit à sa femme comme un vrai trésor national. Mon ami Vladimir Horowitz.
Vladimir a 75 ans. Il veut continuer à jouer et dit qu'au moment où il devra s'arrêter, il le saura. Vanda n'est pas du tout d'accord. Comme toujours avec Volodya, tout ne peut pas aller bien trop longtemps. Son phénoménal succès ne panse pas ses plaies. Vladimir est plus seul que jamais. Car en fait, en dehors du piano, que lui reste-t-il ? À force d'excentricité, d'égocentrisme sans frein, de mauvaises plaisanteries, il a éloigné quasiment tout le monde autour de lui. Tous ceux qui ont travaillé pour lui déplorent un manque de relations humaines. Même Vanda séjourne de plus en plus souvent dans leur maison de campagne du Connecticut désormais. Alors Volodya passe de plus en plus de temps dans les bars en vogue. Vanda baisse les bras, tout en exigeant qu'il reste au moins discret. En fait, aujourd'hui, Vanda est sa plus grande amie. Il doit bien reconnaître qu'au fond, il n'a qu'elle. Vanda répétait souvent « Être la fille de Toscanini, je n'y avais aucun mérite, parce que j'aurais pu naître chez n'importe qui. » Mais être la femme d'Horowitz, de cela, oui, j'y prouve un peu de fierté. Mais en roue libre, Volodya abuse d'antidépresseurs et d'alcool. Les pertes de mémoire et les fausses notes en concert font maintenant grincer des dents bien trop souvent.
Je ne cherche pas la perfection. Je ne suis pas Haïfès, je suis Horowitz. S'il y a une fausse note, c'est pas grave. Je ne veux pas la perfection.
Plus irascible que jamais, en 81, Vladimir fonce tête baissée et décide de quitter son impresario le plus dévoué, Shaw. Ils font une dernière saison, 80-81, puis il prend Peter Gelb pour le remplacer et les tournées reprennent selon ses volontés. Il revient à Londres en 82, en 83 se rend enfin au Japon. Sa performance est telle qu'un critique le compare à un vase antique, précieux, fissuré. L'enregistrement ne sortira jamais. 1984, Vladimir revient se terrer à la maison, tête baissée, amaigré, déprimé. Quatrième retraite, et pour 2 ans. Désintoxication, électrochoc, Vanda pense que cette fois, c'est fini. Et puis en 85, Peter Gelb réussit à convaincre Vladimir d'ouvrir la porte de son appartement de New York et de se laisser filmer par les frères Eyes chez lui. Et cela donne un documentaire extraordinaire, « The Last Romantic ». Vladimir s'y montre facétieux en diable, Vanda en reine-mère. Le couple se met en scène avec coquetterie et complicité. Vladimir se fait certes prier, mais il joue dans ce film, et pour la première fois, la novelette de Schumann. Wanda voit d'ailleurs un trait commun entre Horowitz et Schumann.
Ils sont fous tous les deux.
Horowitz accepte de revenir en studio. Et comme à chaque fois qu'il s'est régénéré, il change d'équipe. Cette fois, c'est Deutsche Grammophon qui l'accompagne. Et dans la foulée, une grande tournée est organisée. Milan, Paris, au Théâtre des Champs-Élysées, le 26 octobre et le 2 novembre 85.
Vous êtes là depuis quelle heure ?
Hier, 11h30. Pas 23h30, 11h30. Hein.
Mais pourquoi ?
Parce que je me suis dit que c'est vraiment un événement exceptionnel. Il n'est pas venu depuis 51. Puis je crois, j'estime que c'est le plus grand pianiste à l'heure actuelle.
Pour presque tous les gens qui sont là, c'est une légende qui a quand même 34 ans.
Nous avons vécu en compagnie de Horowitz, en fait comme nous avons vécu en compagnie d'un mythe. Et là, on a l'impression de rêver, de voir ce mythe devenir réalité. Et je vous assure qu'à la limite, j'ai l'impression que ce concert, c'est un peu comme si on nous annonçait un concert de Toscanini ou de Schoenberg. C'est une véritable résurrection de quelqu'un qui était comme un peu mort entre-temps. Voilà.
Harold C. Schoenberg estime que les concerts et les enregistrements de Vladimir en 85 et 86 sont les meilleurs de tous. En fait, cette tournée n'est qu'un premier tour de piste avant de concrétiser un dernier rêve à 82 ans. Il veut revenir jouer en Russie. Il veut retrouver les siens, sa langue. Or, Reagan et Gorbatchev tentent un dégel par des échanges culturels. Ce sont les Marines qui vont acheminer le piano. Rappelez-vous, quand Volodya a passé la frontière russe en 1925, le douanier lui avait rendu son passeport en ajoutant « N'oublie pas ta mère patrie et reviens un de ces jours ». C'était il y a 61 ans. Deux concerts sont prévus, Moscou, le 19 avril 86, puis Leningrad. Il est attendu par une foule à l'aéroport. On assoit Vladimir Horowitz dans le hall, le temps qu'il salue toutes les personnes venues l'accueillir. Il est tout petit, engoncé dans un grand manteau, l'air émerveillé, comme dans un rêve, par tant de vénération. Et puis tout d'un coup, une vieille femme s'approche. Elle avait 7 ans quand il l'a vue pour la dernière fois. C'est sa nièce. Hélas, il arrive un mois après le décès de sa sœur, Jenny. À la fin de cette conférence de presse improvisée, il dit
« I'm ambassador of peace ».
La plupart des billets pour le concert de Moscou étaient réservés à l'élite soviétique et peu ont été vendus au grand public. Une vieille et pauvre femme témoigne qu'elle a fait la queue pendant toute la nuit. Elle aime passionnément et depuis toujours Horowitz. Elle a réussi à écouter ses disques, assister à un concert de son idole, mais c'était un rêve. Lorsqu'il arrive au Bolchoï, la scène est ahurissante. Sa voiture avance centimètre par centimètre, submergée par une foule à perte de vue que les policiers essayent de retenir. Les admirateurs restent devant la porte une fois qu'il est entré, désespérés de ne pas avoir eu la chance d'acheter une place. L'événement est mondial. Toute la presse internationale est là. En France, c'est Philippe Meyer qui couvre l'événement.
Mais à Moscou, rien. Rien dans la Pravda, rien dans les Izvestia, rien dans les dépêches de l'agence TASS. Dans Moscou Soir, un articulé caché dans les pages intérieures. On pouvait y lire que le conservatoire Tchaïkovski accueillerait le lendemain, je cite, « le pianiste américain Vladimir Horowitz ». Pas un mot sur ses origines russes, ni évidemment sur son départ volontaire en 1925. Par contre, le doyen de la faculté de piano soulignait, pour un confrère qu'il interviewait, l'intérêt du jeu d'Horowitz et l'originalité, la suavité de son toucher. Dans les rues, pas d'affiches, pas davantage sur les murs du conservatoire. En ville, on disait que les billets se vendaient 3 roubles, mais personne ne savait où. Et 3 roubles à Moscou pour un concert, c'était très très cher. Je me souviens d'avoir observé avec une émotion très grande des étudiants qui tentaient d'entrer dans la salle du conservatoire par le toit. La police les surprit et les matraqua. Même les disques d'Horowitz, et Dieu sait s'il en enregistra, n'étaient pas en vente en Union soviétique. 9 chaînes de télévision occidentale, dont Antenne 2, retransmirent ce concert en direct ou en différé. La télévision soviétique lui consacra quelques secondes à la fin d'un journal télévisé, en prenant grand soin d'appeler Vladimir Horowitz le pianiste américain. En Autriche, en Allemagne, en Italie, au Japon, en France, en Angleterre, aux États-Unis, des millions de gens assistèrent à un événement qui se passait à Moscou, mais dont la plupart des moscovites n'étaient pas informés et auxquels ceux d'entre eux qui étaient informés ne pouvaient pas assister.
Vladimir finit son concert par la polka de Rachmaninov comme un ultime salut à son vieil ami. Thank you. avant de rentrer, Vladimir a donné encore des concerts à Hambourg, Berlin, Londres et le Japon pour réparer son image écornée. Il revient en Europe l'année suivante, à 83 ans, pour nous faire un cadeau, une merveille absolue dont le monde ne saurait se passer. Il enregistre avec Carlo Maria Giolini le concerto 23 Köchel 488 de Mozart. Avec l'âge, Volodya rétrécit. Il marche lentement, mais se montre plus espiègle que jamais. Il a l'air perdu quand il arrive pour la première répétition. Et pourtant, il donne ses ordres à Giolini.
Ce n'est pas important. Vous ferez comme ça et moi comme ça. Je l'aime plus que toute autre musique. C'est le numéro 1. Je comprends cette musique, mais pas de manière classique, plutôt de manière complètement libre, mais avec bon goût. Comme me disait Pablo Casals, il faut que tu joues Mozart comme Chopin et Chopin comme Mozart.
Les parties orchestrales, Vladimir se met à danser sur son siège. À la fin du premier mouvement, il envoie un baiser à Giolini. Il regrette une fausse note, mais tout le monde est content.
I did one false note here. The tempo was good.
It was very flowing. Hello. That was very beautiful, maestro. Really wonderful take. Wonderful take.
Et puis vient l'adagio. Vous croyez que Vladimir Horowitz est arrivé au bout du chemin à 83 ans? Eh bien non. Il a une dernière visite à faire à Vienne tout d'abord, et enfin à Hambourg, là où il a eu son tout premier triomphe et où il va donner son ultime concert. Et puis il rentre à New York. Il lui reste un disque à faire. Il aura pour titre « At Home ». Oui, une dernière fois. Volodia veut enregistrer chez lui, dans son salon. Il n'y a plus de samovar, de parfum d'aiguille de pin, de poils de faïence, il ne neige pas dehors, mais ça ressemble au salon de musique de son enfance. Haydn, Chopin, il a encore tant à nous dire. Et puis, il y a son cher Liszt, et surtout la transcription que le compositeur avait écrite de Tristan et Iseult, l'opéra que le tout jeune Volodia mettait sous son oreiller avant de s'endormir. Jours après la fin de l'enregistrement, le 5 novembre 89, Vladimir meurt. Oui, finalement, Volodia, qui disait ne pouvoir aimer personne puisqu'il aimait le piano, aura chéri toute sa vie son premier amour pour la musique. Sous les doigts d'Horowitz, il y avait son enfance.
Thank you.
C'était Sous les doigts d'Horowitz, une émission d'Emmanuel Franc, réalisée par Christine Amadou. Merci à Françoise Monteil qui m'a assistée et a gentiment offert sa douce voix à la terrible Wanda Toscanini. Merci à Laurent Lederer qui a prêté sa voix, lui, à Vladimir Horowitz. Ainsi qu'à tous ceux qui ont participé aux enregistrements, Antoine Baglin et Léopold Tobisch. Merci à Bernard Loupias pour les traductions et à Bruno Mourlan à la technique. Sachez que tous les épisodes de la série sont disponibles à la réécoute sur francemusique.fr. Un dernier mot, Horowitz forever.
À réécouter sur francemusique.fr.